Sportez-vous bien.
Sportez-vous bien.
Sportez-vous bien. L'actualité sportive commentée par Jean Sureda.
Bonsoir à tous et bienvenue dans Sportez-vous bien sur Radio Présence. Nous sommes ensemble pendant une heure pour débattre avec mes chroniqueurs de l'actualité sportive de la semaine, le tout bien évidemment accompagné de sportifs de haut niveau. Au programme aujourd'hui, les mythiques coups de cœur et coups de gueule de nos chroniqueurs, ils seront un petit peu différents. Didier Rubio nous donnera les conseils santé, Maxime Brossard nous donnera l'agenda de la semaine. Pourtant, Lucas Cerdic est là, on verra pourquoi. Et ce soir, pas un, mais deux débats avec bien évidemment le sacre du stade toulousain. Avec nous ce soir, donc pour pas très longtemps, on va vous expliquer pourquoi. Lucas Cerdic, bonsoir Lucas.
Bonsoir.
Mehdi Guillonneau, bonsoir Mehdi.
Bonsoir Jean.
Maxime Brossard, bonsoir Maxime.
Salut.
Et Timothée Rouvert, bonsoir,
bonsoir
Timothée.
Bonsoir Jean.
L'événement n'est pas le sacre du stade toulousain pour nous.
Mais non.
À Sportez-vous bien.
Je clairement.
Pas que, je vais pas l'annoncer, je vais pas comme, je vous laisse annoncer Lucas Cerdic.
Mais oui.
Ce qui vous est arrivé
bien sûr.
Cette nuit, aujourd'hui.
Bah allez. Je fête là ma quatrième heure de paternité.
Ah. Voilà. Félicitations.
Et félicitations. Ouais.
Félicitations.
Merci.
Bravo.
Merci, bon, merci.
Et oui. Un petit Léon.
Un petit Léon, tout à fait.
À
beau prénom. Hein,
Léon. Qui se porte très bien et la maman aussi, tout le monde va bien. Ouais. Ça s'est bien passé.
On
je,
le
suis
sent
debout, je suis debout depuis 4 heures, mais sinon ça va.
Ah,
les yeux sont fatigués.
Les yeux, l'émotion, j'imagine.
C'est ça.
Par contre, on va quand même expliquer à nos auditeurs.
Je suis là depuis 2 minutes.
Voilà, quand vous êtes arrivé dans le studio, comme a dit Maxime, je reprends les termes de Maxime, il a repris, il a pris en grade.
C'est pas pareil. Tu sens que c'est le papa, quoi.
Tu vois,
ça bombe le torse.
Vous avez bombé le torse en arrivant, c'est fantastique.
Il y a une aura, tu vois.
Le menton est levé. Je me sens supérieur à tout un chacun.
Tout le monde s'est tu. On a regardé. Putain, le gars, il est papa, quoi. C'est pas pareil.
C'est un week-end parfait entre le sacre du stade.
Non, mais vraiment. Vraiment, vraiment.
C'est magnifique.
Il nous a laissé tranquille ce week-end pour regarder le stade. Hier, on a rien fait. On a bullé. Et là, cette nuit, il s'est dit allez, on y va. Et comme ça, lundi matin. Hop,
parfait.
Pas de travail.
Il s'est dit, allez, le stade est là, le bouclier
il
arrive sur le Capitole, on
c'est,
y va quoi.
C'est parfait. C'est non, parfait. Vraiment, il a niveau timing, il a vraiment géré.
Ouais, parfait. C'est parfait. Ouais.
Je l'aime bien déjà. C'est il me plaît bien.
Il
me plaît bien.
Il a tout préparé.
Un lundi au soleil et pas au travail. Non, c'est parfait.
C'est ouais. Excellent.
C'est parfait.
C'est excellent.
Le jour du bac en plus, je me dis que,
ouais.
Je sais pas, il y a un
signe. Ah, oui.
Il avait envie de chambrer un petit peu.
Oh, c'était philo en plus aujourd'hui, les premiers.
Ouais. Oui, c'était ouais. Philo, histoire géo aussi, je crois. Bref.
Bon, à partir de maintenant, il faudra en faire un nouveau supporter du FC Sochaux. On recrute, nous, là-haut.
Oula.
Ouais, ouais.
Non,
allons pas trop vite en besogne.
On est quand même né sur la patrie du Stade Toulousain. Le week-end où ils sont champions. Pas déconner.
Un vrai Toulousain en plus. Pas loin d'ici.
Il
là.
Est né à 50 mètres, c'est pour ça que
incroyable,
je suis là. Hein. Je repars tout de suite. Hein.
Incroyable.
Je fais une parenthèse de 5 minutes pour vous dire bonjour.
Bon, voilà, bah, merci beau. Beaucoup, Lucas Cerdic. On
bravo,
se retrouve
Lucas,
peut-être la semaine prochaine ou dans 2 semaines.
Oh, bah, la semaine prochaine, il y a moyen. Hein.
Voilà.
Ouais,
reposez-vous bien.
Super.
Oui.
Bisous à la maman, bisous
oui.
Aux petits.
Bisous à vous.
Et portez-vous bien. Hein.
Et allez le stade.
Allez le stade. Ouais. Merci beaucoup, Lucas Cerdic, d'être venu dans les studios de Radio Présence. Bon, messieurs, vous, à titre personnel, des naissances, des mariages, quelque chose.
On est un peu trop jeunes pour ça, je crois. Non.
Mehdi,
oh, peut-être Maxime.
Non, c'est pas prévu.
Mehdi,
pour
je ne parle pas. J'ai pas
encore une fois.
Hein. Non,
je ne dis rien.
Allez-y.
Hein ?
Allez-y.
Non, mais il y a une chose totalement prévue, c'est-à-dire que j'avais prévu mon coup depuis 17h30.
Ça, c'est un ping-pong.
Voilà, il y a cru, on a fait quelques balles.
Là, je mène 3-7-0, je commence à me dire, c'est aujourd'hui.
C'est maintenant.
C'est maintenant,
c'est le jour.
C'est là.
Il s'en est peut-être rendu compte dans le troisième.
Ouais. Et je me suis dit, je vais le battre, je vais enfin le battre.
Mais c'est la peur de la victoire, ça. Hein.
Ouais.
Dans les grands moments, les champions.
Je suis le Joe Wilfried Tsonga du ping-pong.
Le Clermont
le Clermont du ping-pong.
Quoique, ils ont gagné Clermont.
Ah bon
bah, ils ont joué les trois finales.
Ouais. Mais
j'ai gagné.
Contre le stade, ils gagnent jamais. On va en reparler. Bon, tout le monde est en place. On va pouvoir démarrer maintenant avec les coups de cœur et les coups de gueule.
Sportez-vous bien. Les coups de cœur et les coups de gueule.
Comme chaque lundi, vous nous parlez d'un événement sportif qui vous a marqué. Alors, c'est un petit peu particulier ce soir, puisqu'on va parler uniquement, ou presque, du stade toulousain.
Oui.
Donc, je vous ai demandé, messieurs, bien évidemment, pour préparer les coups de cœur et les coups de gueule, de me donner un fait marquant de la saison du stade toulousain. Une défaite, une victoire, voilà. Quelque chose qui a fait en sorte, pour vous, que le Stade Toulousain s'est mis sur les bons rails pour devenir champion de France. On le rappelle, c'était samedi soir au Stade de France et on en reparlera tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission. On va commencer avec une victoire. Alors paradoxalement, la victoire, c'était en Coupe d'Europe. C'est pas en championnat, c'est en Coupe d'Europe. C'est pour vous, Timothée Rouvière.
Alors oui, c'était un match contre Basse le 13 octobre. Le 13 octobre 2018, ça remonte il y a un petit peu longtemps. C'est une victoire un petit peu au scénario un peu incroyable à la fin. Donc une victoire de Toulouse 22-20. Et c'est, on joue la 75e minute, l'ailier de Basse, Burns, qui est à deux doigts de l'aplatir. Et on a un vieux briscard, Maxime Médard, qui arrive, qui donne un petit coup de patte. Le ballon tombe, il n'y a pas essai. Si l'arrière avait aplati, sûrement que Basse aurait gagné. Ça aurait pas été la même chose pour le Stade Toulousain.
Ça aurait été beaucoup plus compliqué.
Ça aurait été plus compliqué parce que voilà, le Stade aurait perdu. C'était dans une poule assez compliquée avec le Leinster, les Wasps et Basse. Voilà, une semaine plus tard, victoire de prestige à domicile contre le Leinster, 28-27. Ce geste, il est assez révélateur. Moi, je trouve qu'il est révélateur de plusieurs choses. Tout d'abord, la détermination toulousaine à se battre jusqu'au bout. On pourrait donner l'exemple aussi de la victoire de Castres qui s'est jouée à un petit point en avril dernier. Ça montre aussi un Stade Toulousain qui a joué à la merveille le championnat où ils ont gagné et la Coupe d'Europe où ils ont été éliminés par le Leinster en demi-finale, mais ils ont quand même bien figuré. Et surtout, cet étonnant mélange, cet excellent mélange entre la jeunesse et l'expérience, et surtout Maxime Médard qui revient à un niveau qu'on n'y avait plus connu depuis plusieurs années.
On est d'accord, c'est vrai que ça a été un tournant. C'est là où on a peut-être compris la victoire contre Basse et surtout, comme il a dit la semaine suivante, la victoire contre le Leinster. Là, on a commencé à se dire le Stade Toulousain est fort.
Ouais, ça a été un premier indice, effectivement. Après, je ne vais pas devancer Mehdi, mais je pense que le vrai indice, c'est plutôt ce sera le coup de cœur de Mehdi. Effectivement, c'est vrai que je pense que psychologiquement, ça a vraiment marqué le groupe. Et ça, en parlant justement d'anciens, de Médard, il a vraiment montré l'exemple aux jeunes sur ce genre d'action en leur disant les gars, voilà, si vous voulez faire quelque chose cette saison, il ne faut jamais rien lâcher. Et c'est comme ça que ça marche, quoi.
Je gardais la parole, Maxime Brossard. Bon, oui. Timothée Rouvière, c'était une victoire. Mehdi, on va le dire, c'est une victoire, on revient tout à l'heure. Mais vous, c'est paradoxalement deux défaites.
Ouais.
C'est deux défaites à la veille d'une série incroyable pour le Stade Toulousain, un record.
C'est ça. Ouais, c'est ça, c'était avant d'enchaîner le fameux record de 14 matchs sans défaite en championnat. Ils avaient perdu, y avait énormément d'interrogations en fait, puisqu'ils avaient envoyé une équipe un peu remaniée au MHR et enfin Montpellier. Ils avaient perdu 66-15 et dans la foulée, ils avaient perdu contre leur ex-bête noire, du coup, qui était le Castres Olympique, 22-26 à la maison. Là, on s'était vraiment posé des questions parce qu'ils avaient fait quand même un bon début de saison. Je me rappelle la première journée avec un match nul
à Lyon
et
à Grenoble.
Il y avait déjà un peu cette empreinte avec le retour du jeu, un peu, on disait, à la Toulousaine notamment, ouais. Et des belles actions. Et puis là, il y a eu ce coup d'arrêt. Il y a eu énormément de critiques, mais j'ai trouvé que le groupe du Stade Toulousain a vraiment fait corps. Ils se sont unis et puis pour ensuite enchaîner avec cette incroyable série de 14 matchs et puis le titre
à la fin. Timothée, c'est vrai que c'est marquant, c'est vrai que c'est deux matchs quand même. Là, c'est vrai que ça fait presque tâche sur la saison du Stade Toulousain, mais par contre, c'est ce qui entraîne la suite, c'est ce qui entraîne les victoires.
C'est étonnant parce que le Stade Toulousain, il y a eu trois défaites en tout en top 14.
Il y a eu à Toulon aussi, c'est ça.
Il y a eu aussi à Toulon et ces deux défaites.
C'était au Vélodrome, je crois.
C'est ça.
Oui, voilà.
Le fameux match Vélodrome et il y avait Vélodrome, le Stadium, on va en parler juste après, et le match de Coupe d'Europe, ça a été le mois d'avril assez.
C'est ça. Mais voilà, on aurait pu se dire le Stade Toulousain va plonger, ça va être compliqué. Ça leur a permis de se souder dans la défaite et de repartir ensuite. Donc c'est peut-être le point d'orgue de la belle saison du Stade.
Mehdi Guillonneau, vous, c'était un match au Stadium pour le TFC. Non, parce qu'ils ont gagné le Toulouse, donc ça pouvait pas être au Stadium. Mais c'est le Stade Toulousain. C'est vrai que contre Clermont, justement, c'était pas la finale, mais le match de saison. Je vais reprendre vos mots. C'est le plus beau match de la saison.
Pour moi, j'ai choisi. C'est parce que je suis un esthète. C'est tout simplement parce que moi, je suis pas à 200% le rugby. Je suis énormément. Je regarde des matchs tous les week-ends. Mais alors celui-là, honnêtement, ça fait très longtemps que j'avais pas vu un match de ce niveau-là avec deux équipes mais complètement libéré.
On en parlera. 47-44, hein, on rappelle.
47-44, il y a eu 10 essais, dont la victoire toulousaine. Ils étaient menés de 11 points à 10 minutes de la fin. Ils arrivent à s'imposer, le stadium plein, etc. Bon, ça, on en a l'habitude au stadium, le stade toulousain, à chaque fois qu'ils y viennent. Mais moi, ce que je retiens, honnêtement, c'est l'intensité qu'ils ont mis. Et ce qui a été différent du match qu'on a pu voir en finale, on en parlera ensuite, c'est qu'il n'y avait pas cette pression-là, justement, d'une finale. Les deux équipes étaient quasiment assurées d'être qualifiées. D'ailleurs, le Stade toulousain a assuré sa qualification sur ce match-là. Et j'ai envie de dire, c'était du rugby champagne. Honnêtement, on a vu un match extraordinaire dans l'intensité. D'ailleurs, c'est peut-être un match qui a desservi le Stade toulousain en Coupe d'Europe, d'avoir laissé des plumes physiquement.
Pour le Leinster,
exactement. La semaine d'après, il y a le match contre Leinster. Et même clairement, en Coupe d'Europe, jouer une finale, il me semble,
contre La Rochelle,
en challenge. Et là, en première mi-temps, ils ont été très bons. En deuxième mi-temps, ils ont accusé le coup. Et La Rochelle était un petit peu revenue, mais bon, ils étaient largement au-dessus et ils se sont imposés. Ce match a laissé des traces, mais il était tellement fabuleux. Honnêtement, moi, j'étais pas au stade, j'étais devant ma télé, mais je me suis régalé. Et j'avoue que c'est assez rare devant un match de rugby, mais celui-là.
Ouais, ça tranche un peu, c'est vrai que ce qu'on a l'habitude de voir en top 14 avec des matchs assez serrés. Mais le stade, le Toulousain, a reproduit ce genre de performance souvent, notamment je pense au match de Bordeaux-Bègles où ils étaient menés à la mi-temps, c'était plié et puis ils ont réussi à renverser la tendance pour finalement s'imposer. Et ce qu'il y a de beau, ouais, surtout, c'est qu'en fait ces victoires se sont faites vraiment par le jeu, quoi. Ça a été vraiment des victoires avec des essais de trois quarts, voilà, sans oublier bien sûr le gros travail des avants qui a été effectué, parce que si vous voulez avoir des ballons rapides au rugby, il vous faut forcément des avants aussi rapides et travailleurs. Ce qu'ont fait les avants du stade toulousain cette saison, il faut leur tirer le chapeau aussi pour ça. Et oui, justement, ça m'avait fait penser un peu, moi, ce match, à un match de Super Rugby, qui est le championnat de l'hémisphère sud avec la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, l'Australie, l'Argentine et le Japon. Et ça m'a fait penser vraiment à ce type de rencontre totalement déliée. Avec,
rugby moderne, j'avais
dit. Exactement, voilà, du rugby moderne, très peu d'arrêts de jeu, des séquences longues, beaucoup de passes. Enfin, c'était vraiment un régal, ouais.
Timothée Rouvière.
Ouais, c'était beau pour les yeux, parce qu'au vu de la qualité des lignes arrières clermontoises et toulousaines, on a vu, il y a une quinzaine de joueurs qui pourraient prétendre à une place en équipe de France dans ces deux équipes.
On aura la réponse demain, Maxime en parler dans l'agenda de la semaine.
Mais voilà, c'était beau, juste à voir, avec le retour du jeu à la toulousaine, Clermont qui n'a pas verrouillé, ouais, c'était voilà. Et Toulouse qui a reproduit ce genre de match plusieurs fois dans la saison, donc c'est très agréable.
Et moi qui ne suis pas toulousain, c'est vrai que c'est quand même plaisant. C'est vrai que je suis plus, ceux qui me connaissent, je suis plus foot que rugby, mais il faut quand même avouer, j'étais au Capitole samedi et dimanche. Faut avouer quand même que c'est super à voir. Et moi, on m'avait dit, j'ai connu la Coupe du Monde 2018, parce qu'en 98 j'étais trop jeune, donc ça c'était bien. Et c'est vrai que quand je suis arrivé à Toulouse il y a 4 ans maintenant, on m'a dit, il faut, t'es à Toulouse, tu dois voir le Stade toulousain remporter le championnat de France. C'est un devoir, c'est une obligation, tu ne peux pas partir avant. Et c'est vrai qu'il faut avouer quand même que c'est quand même extraordinaire.
Quelque chose,
hein. C'est extraordinaire.
Ouais.
L'ambiance, c'est...
C'est la ferveur, c'est dingue, et puis hein. Oui, c'est véritablement un sport et une institution qui est ancrée dans cette ville. C'est vraiment, comme il y a des villes, je pense à Saint-Etienne par exemple, voilà, on pense de suite à la Saint-Etienne, ou Marseille le foot, ou Sochaux, ouais, bon, allez, ouais.
Non, on peut pas parler de Sochaux.
Mais c'est un peu pareil, allez, finalement, Sochaux, c'est Peugeot et le foot. Et là, ici, c'est les avions et le rugby, donc voilà, ouais. Ça fait partie du folklore.
Bon, merci pour les coups de cœur et les coups de gueule. Nous, on se retrouve dans moins de 4 minutes avec les conseils santé de Didier Rubio. À tout de suite. Paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime, and bad mistakes I've made a few. I've had my share. We are.
curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all. But it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race, and I ain't gonna lose. We are the champions, my friends. And we'll keep on fighting till the end. We are the champions. We are the champions. No time to lose. We are the champions of the world.
Portez-vous bien, l'instant santé.
La chronique santé cette semaine, comme d'habitude, avec vous Didier Rubio. On va parler des algues. Alors, on a l'habitude, hein, quand on va à la mer, on les voit, les algues. Mais sur le plan nutritif, ça consiste en quoi? C'est quoi?
Bonjour Jean. Les algues, dans la lignée de ce qu'on présentait, les plantes adaptogènes, alors oui. Aujourd'hui, on présente des algues. Donc, les algues, c'est pas que dans la mer. Alors, il y a des algues qui sont des algues d'eau douce et des algues, effectivement, qui sont dans la mer. Alors, quand il y a des algues, normalement, c'est un signe aussi de qualité, par exemple des bords méditerranéens, tant mieux. Ce qu'il faut savoir, c'est que des algues, là par exemple, on va parler de la spiruline. La spiruline, c'est une très bonne algue qui contient vraiment beaucoup de micronutriments, des oligo-éléments. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'une algue, par définition, elle a tendance à dépolluer l'endroit où elle se trouve. En fait, c'est ça. Principale fonction, donc c'est ce qu'elle fait aussi quand on la prend. Hein. Mais du coup, il faut faire attention de ne pas consommer des algues qui auraient été poussé et élevé dans un endroit qui est très pollué, parce que du coup, on va prendre la pollution. Donc moi, je conseille vraiment, dans le choix des algues que vous ferez, d'utiliser des algues qui bio, par exemple, au minimum bio, ou avoir une garantie de qualité parce que sinon, ça peut être finalement contre-productif. Donc la spiruline, je disais, hein, ce qui serait très 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 intéressant dans la spiruline, c'est de consommer l'algue telle qu'elle, c'est-à-dire en salade. Parce que là, du coup, on aura les protéines, le fer et tous les oligo-éléments. Après, quand elle est très très biodisponible, c'est quand elle est consommée aussi sous forme liquide, c'est-à-dire qu'elle est solubilisée.
Donc ça arrive souvent, on le voit souvent.
Ça, on en voit de plus en plus. Effectivement, voilà. Mais souvent, elle a été et elle est toujours consommée sous forme de paillettes. C'est des comprimés ou en paillettes comme ça.
C'est relativement cher dans le commerce, non?
Ouais, c'est pas donné. C'est parce qu'il faut extraire.
Il y a une préparation qui est très longue quand
même. Ouais, il y a quand même une préparation très longue. Ouais, tout à fait. Pour ce qui est de la spiruline, ce qui est mis en avant, c'est essentiellement le fer. Si on devait résumer, après, il y a tout le reste comme oligo-éléments. Et moi, je considère que c'est un assez bon produit. Toujours pareil, je pense que c'est quelque chose qui vient en complément du reste. Et il ne faut pas mettre tous ses espoirs en fait, dans la seule spiruline. Et du reste, des fois, lorsqu'elle est présentée comme exceptionnellement riche en protéines, il ne faut pas exagérer, c'est jamais aussi riche qu'un œuf ou du poulet ou autre. Donc, parce que c'est toujours comparé pour 100 grammes de produits. Mais en fait, on ne peut pas consommer 100 grammes de spiruline lorsque c'est en paillettes.
Ouais,
voilà, et du coup, il faut ramener les choses à sa vraie valeur. Sauf si on consomme les vraies plantes sous forme de salade, mais bon.
Durant l'année, on a parlé souvent du bio, on avait dit que c'était plus ou moins un effet de mode, comme les véganes, etc. Est-ce qu'on peut parler aussi d'effet de mode pour pour les algues. C'est vrai qu'on on vient de le dire, on en voit de plus en plus.
Ouais, alors effectivement, il y a toujours des mouvances comme ça, où quand quelque chose va sortir, tout le monde va s'engouffrer dans la brèche. Bon, en ce moment, c'est le bio d'ailleurs. Donc on pourra faire des émissions là-dessus, parce que c'est... actuellement, il y a des choses qui se passent et qui ne sont pas très très jolies là-dedans non plus. Pour les algues, alors la spiruline, c'est quand même quelque chose qui existe depuis longtemps. Il y a d'autres algues qu'on utilise en cuisine, qui, par exemple wakame, nori. C'est intéressant, ça c'est plus sur le plan culinaire, et aussi le fait que ça apporte de l'iode. Et c'était votre introduction du fait que les plantes étaient dans la mer, et effectivement, il y a de l'iode, ça c'est intéressant. Il y en a une autre qui serait intéressante, enfin moi je trouve, et c'est le, alors c'est difficile à dire, c'est le lithotantium.
Alors je vous laisse le dire, voilà, moi j'y arriverai pas.
Non, parce que déjà, j'ai un peu de mal. Donc c'est une algue qui complète souvent les boissons végétales comme celle de soja ou autre.
D'accord,
parce que c'est très riche en calcium. Donc du coup l'avantage, c'est les gens qui sont intolérants au lactose et qui ne consomment pas de lait, donc du coup qui sont à risque d'avoir des carences en calcium, peuvent prendre des boissons végétales, et j'encourage à les prendre avec cette algue-là, lithotantium, parce qu'elle elle apportera du calcium. Voilà, donc pour ce qui est des algues, les algues culinaires nori, wakame, spiruline, moi je pense que c'est pas mal. Lithotantium aussi, c'est des algues qui peuvent compléter l'alimentation de base.
Didier Rubio, merci.
Merci à vous.
Sportez-vous bien ? L'agenda sportif.
L'agenda de la semaine avec vous, Maxime Brossard. Et comme d'habitude, malgré le mois de juin, une actu bien chargée. Et on ne change pas les bonnes habitudes. On commence avec le rugby.
Oui, on commence avec le rugby et la liste du 15 de France que j'ai intitulée l'appel du 18 juin. Qui aura lieu demain, donc, pour Brunel et Galtier.
L'appel en deux mots. Hein.
Oui, l'appel en deux mots. ou l'appel qu'on va ramasser au Japon. Ça, c'est possible aussi. Ouais. Donc, la liste de Brunel et Galtier, donc surtout de Galtier. Qui vont donc dévoiler les 37 noms des joueurs appelés à participer à la Coupe du Monde au Japon. Donc il y aura 31 on va dire titulaires et 6 réservistes. Ce sera demain à 11h20. Voilà.
La Coupe du Monde au Japon, il y aura beaucoup de... On va en parler, on est dans l'émission rugby. Il y aura beaucoup de Toulousains, beaucoup de Clermontois à l'image de la saison. On espère.
Ouais.
Un mode de rugby toujours ?
Toujours, avec donc un beau rendez-vous ce soir avec la demi-finale du championnat du monde U20 en Argentine. La France, tenante du titre, va affronter l'Afrique du Sud. Ce sera ce soir à 20h45, c'est diffusé sur France 4, voilà, si vous voulez pas regarder du foot féminin. Le vainqueur de ce match donc tombera en finale contre le vainqueur d'Argentine-Australie, qui est l'autre demi-finale, voilà. Je continue le rugby rapidement avec, si vous voulez tout voir du beau jeu, il y a les quarts de finale de Super Rugby qui commencent vendredi et samedi. Le premier sera vendredi à 9h35, ce sera Crusaders, les tenants du titre contre les Highlanders. Et le samedi, il y aura les Jaguares, donc l'équipe des Argentins, donc la franchise argentine qui joue les Chiefs. Hurricanes contre Bulls et Brumbies contre Sharks. Et surtout, très important, la finale de Fédéral 3, il y a Hoche qui va affronter Courbevoie. Gros match parce que Courbevoie, ils ont fini premier de la poule 2 de Fédéral 3. Solide équipe. On va être tous derrière les Occitains. On espère que ça fait plaisir de revoir ce club mythique à remonter petit à petit les échelons du rugby national. Ce sera dimanche 23 pour l'heure et le lieu. Ça n'a pas été encore fixé par la Fédé.
Dans le centre, sûrement.
Ouais, je pense que ce sera dans le centre, probablement. Voilà, donc restez attentifs si vous voulez aller voir le match. Et puis, allez, Hoche.
Un mot de football. Avec bien sûr la Coupe du Monde féminine, l'équipe de France joue dans une heure et demie.
Voilà, dans une heure et demie, mondial féminin, troisième et dernier match de poule. La première place de la poule est en jeu, ce sera face au Nigeria. À 21h, vous aurez le choix entre TF1 ou Canal+, voilà, une petite préférence pour TF1 quand même. On a eu Grégoire Margoton
qu'on avait reçu, le commentateur journaliste de TF1.
Voilà.
Donc on va mettre TF1, puis c'est gratuit.
Oui. on continue avec l'Euro Espoir, donc ce sera demain, Angleterre-France, premier match à 21h, ce sera sur W9 et Beansport, voilà, on espère que les Bleus vont... performer.
Et vendredi, l'équipe de France jouera encore une fois son deuxième match de poule. C'est un bon souvenir pour les tricolores. Ce sera contre la Croatie.
Voilà.
Ça nous rappelle l'été dernier.
Voilà, des belles victoires. On continue le foot avec la Copa América. Il y a l'Uruguay qui a battu l'Équateur 4-0.
Facilement.
Hein. Ouais, assez facilement. Et demain, il y a Japon-Chili.
Alors, c'est cette nuit.
Ce sera à 1h30 du matin. Voilà. Et il y aura aussi Bolivie-Pérou à 23h30. Voilà, match de la Copa América qui continue. compétition intéressante. J'ai vu qu'il y avait le Japon et le Qatar, assez étrange.
Les invités. Il y a toujours deux équipes invitées. Et là, le Qatar, c'était deux années d'affilée. Ils seront aussi
le Qatar,
prochaine.
Ils sont l'année prochaine. Mmh. On sait pourquoi. Voilà, pour, en 2022.
En vue de la Coupe du Monde.
C'est une sorte de préparation.
Voilà,
pour...
Ils accueillent la Coupe du Monde 2022, qu'on va gagner, bien évidemment. Et ils sont obligés de la préparer.
Le Qatar qui a fait un bon résultat, hein, deux partout contre le Paraguay après avoir été mené 2-0. Donc, bon, ils ne vont pas gagner la Copa América. Mais,
et attention, ils ont gagné la Coupe d'Asie.
Ils ont gagné la Coupe d'Asie, mais c'est important de le souligner.
Ils sont champions d'Asie.
Qui a blessé Neymar en plus, magnifique.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai. On reste dans le football, mais on va changer de discipline bizarrement. On va faire du football américain.
Alors attendez, avant de venir au football américain, la CAN, très important. Et oui, le match d'ouverture vendredi à 22h en Égypte, Égypte-Zimbabwe. Voilà, quand même, la CAN, important.
Il fallait le dire, c'est une énorme compétition, bien évidemment.
Bien sûr.
Le Sénégal, par favori pour moi. On en reparlera.
Eh bien, on en reparlera, oui. Intéressant.
Le football américain.
Ouais, le foot US, l'élimination des ours qui ont fait une première historique. Ils sont allés en finale de conférence, donc la conférence sud, ils sont dans la division casque d'or, c'est la deuxième division nationale, voilà. Et cette finale de conférence sud, c'est l'équivalent de la demi-finale nationale, voilà, pour vous résumer. Ils ont perdu, c'était un derby en fait, eh oui, les ours contre les grizzlies. les ours contre les grizzlies catalans.
Il y a des coups de griffes.
Donc, ouais, ils ont perdu 20-17. Et voilà, une belle saison pour les ours, j'espère qu'on les aura l'année prochaine aussi au micro, voilà, on les retrouvera pour de nouvelles aventures.
Et on reste sur le football. Alors après le football entre guillemets normal, le football américain, on part sur le football australien.
Ouais, le football australien.
Petite déception quand même.
Mais déception dans le sens où en fait le Stade Toulousain était qualifié pour la finale. Il devait jouer contre Paris ce week-end à Lyon. Malheureusement, il y a eu d'énormes intempéries dans la région, notamment dans la Drôme et autour de Lyon. Et donc le match a été annulé. Et c'est assez particulier puisque la finale est reportée en septembre.
Ah oui,
donc, ils ont le temps de s'entraîner là, pendant deux mois.
En fait, il y aura deux journées de la prochaine saison, mais la finale ne sera pas jouée encore.
Je ne sais pas comment. Bon, voilà. En tout cas, c'est sûr, c'est fixé en septembre. Voilà. Donc, on reste éveillé, on suivra ça à la rentrée.
Merci Maxime Brossard. Et pour conclure cet agenda
rapidement aussi le vélo, il y a le départ de la route du sud à pas manquer. En plus, ça
d'Occitanie,
ça a changé de nom et ça va passer en plus dans la région, dans notre région. C'est le départ jeudi. Valverde qui est le champion du monde et qui a remporté l'année dernière l'édition va défendre son titre, donc c'est du 20 au 23 juin. Ça passe dans la région, donc la deuxième étape ce sera une étape entre La Bruguière et l'arrivée sera à Marthe-Tolosane, et il y aura aussi la troisième étape entre Auro et Luchon. Voilà.
Et un mot, je me tourne vers vous Mehdi Guillonneau, un mot de MotoGP.
C'est vrai qu'on fait une émission spéciale rugby aujourd'hui, mais il y a quand même un gros événement ce week-end, c'est la deuxième place de Fabio Quartararo en MotoGP, c'était en Catalogne. Tout simplement après la pole, le plus jeune poleman de l'histoire. Bon, il sera pas le plus jeune vainqueur de l'histoire parce que c'était sa dernière chance ce week-end, il battra pas Marquez, mais il finit juste derrière lui et c'est extraordinaire parce que voir un Français
à ce niveau-là
en MotoGP, on attendait ça depuis des années, et puis c'est un modèle de précocité parce qu'il a super bien géré sa course. Il fait encore une fois, c'est son défaut, un très très mauvais départ. Il se retrouve, je crois, jusqu'à la 7 ou 8e place. Et puis peut-être.
Ce qui est énorme à ce niveau-là. Enfin,
Pour remonter, il avait déjà fait la pole. Et là, il fait une remontée. Après, il a profité de certaines chutes de certains favoris. Mais il a super bien géré sa course jusqu'à la fin. Et c'est juste extraordinaire. Moi, j'ai été époustouflé devant ma télé ce week-end.
Timothée Rouvière.
Et ce qui est important de le rappeler, c'est qu'il conduit sur une moto d'usine, donc il n'a pas du tout les mêmes motos et le même moteur que la Yamaha officielle, donc l'exploit est d'autant plus...
En gros, c'est la Yamaha de l'année d'avant.
Voilà. Donc avec une moto moins performante, il est plus performant que la moto de cette année, donc c'est important de le souligner.
Et justement, on va continuer à suivre ses performances dans Sportez-vous bien en cette fin de saison et bien évidemment l'année prochaine. Merci Maxime, merci Mehdi, merci Timothée. Nous, on passe au débat de la soirée.
Portez-vous bien. Le débat.
On passe au premier débat de la soirée. Samedi au Stade de France, le Stade Toulousain a remporté son 20e bouclé de Brennus contre Clermont. Une victoire 24-18 qui permet aux Rouges et Noirs de retrouver le sommet du rugby français. Messieurs, on va commencer par un zoom tout simple de la finale. Une victoire logique ou uniquement, je parle pour la finale, du Stade Toulousain. Est-ce que c'est logique cette finale, cette victoire et cette finale, Timothée Rouvière?
Alors oui, c'est logique sur la finale et sur la saison.
Mehdi Guillonneau.
Oui.
et Maxime Brossard.
Ben oui.
On est d'accord, oui. La boucle est bouclée, oui, victoire face à Clermont.
Pour une fois, la logique a été respectée. Le premier a gagné.
Voilà, l'année dernière c'était Castres, 6e.
Oui.
En général, au rugby, il valait mieux finir 6e pour gagner que le premier.
C'est vrai, c'est vrai.
Exactement. Exactement. Maxime, c'est vrai que c'est vrai que la finale, on a vu quand même une belle finale. On pouvait s'attendre à une finale assez fermée entre deux équipes qui se connaissaient, deux équipes qui avaient un niveau assez similaire. Mais voilà, on a vu une belle finale par contre.
On a vu une belle finale du côté toulousain, dans le sens où au niveau de l'animation offensive et surtout de la défense qui a été monstrueuse, c'est là où ils ont vraiment gagné la finale. Mais moi j'ai été déçu par Clermont, je les ai pas trouvés à leur niveau. J'ai été vraiment déçu par la performance des Clermontois. Je sais pas ce que vous en pensez, mais
vous êtes d'accord Timothée? Clermont, c'est vrai que Clermont a un petit peu loupé sa finale, et en conférence de presse, en zone mixte, les joueurs l'ont un petit peu dit que Toulouse méritait clairement sa victoire samedi soir.
Bah oui, c'est vrai que Toulouse a totalement géré de la première à la dernière minute. Même le carton jaune de Colby les a pas déstabilisés. Pour moi, c'est le tournant du match.
Oui.
Clermont qui
à la 33e minute,
qui a une équipe forte, qui a une équipe qui est habituée aux grands rendez-vous et qui s'appuie sur ses lignes arrière. Moi, je pense à Penaud, je pense à Fofana, je pense à Raka surtout. Ouais. C'est des joueurs qui ont déçu, qui ont très peu parcouru de mettre ballon en main, et c'est ça qui les a plombés parce que toutes les attaques étaient stériles. Ougué a une grosse défense du Stade Toulousain, mais toutes les attaques sont stériles côté Clermont. Ça peut pas marquer.
Et il y a quelque chose qui montre que Clermont est passé à côté, c'est qu'ils n'ont pas marqué d'essai la première fois
pour
cette saison.
Pour la première fois de la saison, ouais,
c'est en finale.
C'est un symbole.
Ça montre qu'ils ont raté presque la finale. Sachant qu'il ne faut pas minimiser la performance du Stade Toulousain, on est d'accord.
Pour moi, ils l'ont raté, ça c'est sûr, parce qu'ils n'ont pas réussi à répondre à tous les aléas, à toutes les blessures qui leur sont tombées dessus aussi. Pour moi aussi, le scénario est complètement favorable à Toulouse. Quand on voit les blessures en troisième ligne, Maxime, tu vas m'aider. Oui. Vous allez m'aider sur le.
Arthur Ituria.
Ituria, ouais, juste avant le match. Ouais. Et pendant le match aussi, rapidement, il y en a un autre.
Mais la Pendry. Ouais.
La Pendry, exactement. Exactement. Et le débat, encore une fois, sur le carton jaune et cette pénalité ou pas, honnêtement, avant la mi-temps, moi je l'ai dit, il n'y a aucune chance que Clermont revienne, parce que, ou alors ça serait un exploit monumental, tout était en faveur du Stade Toulousain pour moi, et voilà, mais c'est totalement mérité.
Maxime Brossard.
Après, il y a aussi vraiment les deux gros points négatifs, j'aime pas vraiment faire ça, mais on va dire que Camille Lopez, j'ai trouvé, normalement, c'est le 10 qui doit mener un peu le jeu offensif de son équipe, et j'ai trouvé que même dans sa gestion du jeu au pied, il a rendu trop de ballons au pied, alors qu'on sait que l'arme favorite de Toulouse, c'est le désordre, c'est la relance. Il leur a rendu des ballons au pied, mais enfin, j'ai pas compris vraiment. Même des fois, il était dans les 50 mètres, il faisait des sortes de coups de pied un peu en cloche qui arrivaient devant les 22. Enfin, j'ai pas compris le jeu au pied, ce que c'était les consignes qu'on lui avait données. Bref, et Raka est passé complètement à côté. Mm-hmm. Ça a été le point faible vraiment de Clermont. Le premier essai, il est pour lui, et après, pareil, il se fait bouffer par Huger sur les ballons ronds. Enfin.
C'est vrai qu'avec le recul, quand on se remémore un petit peu les images du match, on a l'impression que le Stade Toulousain était beaucoup plus serein que Clermont sur ce match. On a l'impression qu'ils savaient presque qu'ils allaient gagner, ils étaient prêts, clairement.
Bah, ils ont parfaitement géré, ils sont appuyés sur une défense de fer, alors ils sont réputés pour leur attaque de feu, on a vu avec 102 essais cette année, mais on avait l'impression que dès que ça a accéléré côté Stade Toulousain, et ben ça débordait. Et ce qui est étonnant, c'est que des joueurs comme Guitoun, comme Médard et comme Aki, on les a vus, c'est vrai, en attaque, mais ils n'ont pas été flamboyants. Et ça montre que Toulouse pouvait encore accélérer et creuser l'écart.
Pitaki a fait vraiment un gros match. Après, juste revenir aussi sur un élément moi qui m'a beaucoup perturbé pour une finale top 14, c'est qu'il n'y avait pas une mêlée qui tenait. Alors ça, par contre, c'est.
Et
alors
ça,
on
ne
sait
pas
si ça vient un peu de l'arbitrage, des joueurs. C'était honnêtement, c'est moi qui suis pas spécialiste, ça m'a beaucoup étonné. Après, il y a une rentrée à Toulouse qui a fait du bien, c'est Castet.
Ouais.
Au niveau de la mêlée, ça a été quand même assez impressionnant la différence ensuite. Mais ouais, honnêtement. Pour une finale, ça m'a surpris. Quoi.
On a vu que c'était une finale aussi de combattants, de buffles, de bouchers, entre guillemets, au bout de 25 secondes, bagarre. Hein. Déjà, on est dans le rythme.
Enfin, déjà, c'était pas une vraie bagarre. Il n'y a pas eu de vraiment de coups. Ouais, voilà. Ils se sont repassés les maillots.
N'allez pas dire ça,
on va
dire.
Maxime. Ils se sont repassés les maillots. Après, c'était vraiment. Bon, après, oui, au niveau de. Je rebondis sur ce que vous avez dit sur Pitaki, qui a fait un match énorme en défense. Mmh. Il est incroyable, un vrai sécateur avec Alstadt et Cross. C'est un peu la victoire aussi de ces hommes de l'ombre qui. Bon, Cross avait un jeu, on va dire, un peu plus porté sur l'offensive, même acquis durant cette saison. Mais là, ils se sont mués, on va dire, en sécateurs. Ils ont fait un énorme abattage défensif qui a permis la victoire du Stade Toulousain. Et pour revenir sur les mêlées, c'est le fléau, c'est la plaie du top 14. C'est ce que on répète souvent avec Lucas aussi.
C'est vrai que vous en parlez souvent.
Ouais, c'est catastrophique. C'est un gros problème parce que ça, les gens qui.
Mais qu'est-ce qui cloche?
Mais en fait, c'est que ça triche, quoi. Les piliers trichent sur les prises, il y en a qui poussent en travers. On cherche à tricher en fait. Dans les autres championnats, si vous voulez, généralement, c'est très vite sanctionné. Les mêlées ne sont pas refaites indéfiniment. Puis c'est vrai qu'en France, bon, il y a ce culte autour de la mêlée, mais ça porte préjudice au spectacle. Au jeu, en fait, voilà, quelqu'un qui n'est pas forcément initié à la mêlée va regarder ça. Au bout de trois mêlées, il va dire ouais, c'est affreux le rugby, quoi. C'est quoi ce sport? Et du coup, c'est vrai que déjà ça porte préjudice. Et en plus, il y a beaucoup de triches. C'est intéressant de regarder un peu ce qui se fait aussi dans les autres championnats et vous verrez que les mêlées vont plus vite, il y a moins de triches et c'est le jeu qui en sort vainqueur.
Dans cette finale qui a vu le Stade Toulousain donc remporter le 20e bouclier de Brennus, le premier depuis 2012. Tout simplement, pour vous, l'homme du match, messieurs, Timothée Rouvière, si vous devez sortir un prénom, un nom.
Pour moi, ce serait François Cross. Et surtout que j'ai une petite anecdote sur ça, c'est que François Cross, il a été capitaine à Grenade. Et j'avais un ami qui jouait à côté de lui, qui était troisième ligne L. Il s'appelle Thomas, je lui passe le bonjour. Et c'est vrai que c'est un jeune d'ici. Et surtout qu'au vu de la concurrence qu'il y a en troisième ligne entre Toulofoa et face à Lille surtout, il a trouvé sa place. Il a un profil très particulier, il est gratteur, il va vite. Pour moi, c'est Cross, c'est un homme de l'ombre. Et voilà. Et surtout aussi Aki, alors Aki qui est plus connu pour son rôle d'attaquant, mais en défense. Il a fait railler dur. Ouais.
Vous êtes d'accord avec ça, Mehdi, ou quelqu'un d'autre?
Moi, j'aurais mis Pita Aki aussi, mais après, ouais, bah, les deux essais. Il y a quand même deux essais en finale, et c'est les deux seuls essais toulousains, et c'est UG. Ouais, on est quand même obligé de.
La légende,
donc obligé d'en parler, quoi.
C'est un record en plus, je crois. Personne n'avait marqué de doublé en finale, je crois.
Ah, donc c'est dire quand même la performance. Hein.
Ouais, d'UG, ouais. Non, je suis d'accord. Exactement les mêmes coups de cœur que Mehdi, Pita Aki, parce qu'il a fait pour son abattage défensif. Et UG parce qu'il a été, on va dire, l'homme providentiel, quoi. Il a été un peu comme en foot, on va dire, voilà, le type qui met le Pipo Inzaghi du Stade Toulousain. Il était là au bon moment pour conclure les actions.
Et on parle souvent de tout ce qu'il y a autour du rugby. Déjà, est-ce que vous étiez au Capitole? Je vous ai pas demandé ça. Vous étiez au Capitole, vous, ou pas?
Oh non, moi j'étais chez Mathilde et Charlie. On a tranquillement regardé le match devant des pizzas. Donc voilà, c'était sympa. Ouais,
dédicace.
C'était sympa. Et vous, Mehdi?
Non plus, un bon magret frites dans le rugby.
On connaît le Gersois, là. Magret, c'est sacré, là.
C'est obligatoire.
Le magret du samedi.
Un grand événement, magret.
Maxime, vous travaillez-vous, je crois?
Ouais, j'étais à la dépêche du midi. J'ai pris le feu. Je me suis embrasé totalement. Ouais. D'ailleurs, j'ai encore quelques cheveux. Oui, c'est bon, ouais. Non, la torche humaine, ouais, parce que là, il fallait monter. Je montais les pages, en fait. J'étais secrétaire de rédaction, plus exactement. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de travail, ouais, de relecture, de mise en page. Donc, mais ça fait plaisir de travailler dans ces conditions. Voilà.
Et pour conclure sur cette finale, tout à l'heure, dans la deuxième partie, on va parler un petit peu de la saison générale du top 14. Mais c'est vrai que la belle image de cette soirée, c'est quand même le capitaine du match, Keno, qui laisse prendre le bouclier Médard et Marchand, qui Marchand lui était capitaine avant sa grave blessure. C'est l'image de la soirée.
Oui, il a expliqué.
Avec le Toulousain qui demande la nationalité française à Emmanuel Macron.
Et il y a un petit quelque chose qui est passé inaperçu, qui est sorti aujourd'hui, oui. C'est Clément Castet qui a parlé d'écologie à Emmanuel Macron.
Il a encouragé.
J'ai vu ça. Et pour revenir sur Keno, c'est la classe néo-zélandaise. Hein, il n'était pas du tout obligé.
Faut que je le dise. Il était au Capitole, j'ai bousculé un double champion du monde sans faire exprès. Il a eu peur, il a eu mal aussi à l'épaule. Avec ma masse musculaire, il était obligé.
Il est forfait pour toute la saison prochaine.
Acromioclaviculaire, à cause d'un socialien quand même. C'est la première.
Mais bon, c'est vrai que c'est, comme vous l'avez dit, c'est la classe, quoi.
C'est la classe néo-zélandaise, on le savait. C'est pas forcément un joueur qui va faire énormément de différence, Jérôme Keno, parce qu'à 35 ans, c'est un peu compliqué. Mais c'est un joueur qui montre l'exemple à la fois sur le terrain et en dehors du terrain. Et voilà, il n'y a rien à dire. Les Néo-Zélandais, on les connaît. Il y en a pas mal dans le championnat de France. Donc voilà, chapeau.
Maxime, on a l'exemple de Lucas Sardic. C'est le papa, quoi. Keno, c'est le patron du vestiaire. C'est lui qui gère un peu tout le monde. Qui a tout le monde sous son épaule. Non, et pour revenir, c'est vrai que c'est la classe néo-zélandaise, en fait. C'est exactement ça. C'est des grands champions, les Néo-Zélandais, tant sur le terrain que dans l'attitude. Donc,
Moi, je trouve ça presque logique, en fait. Qu'au départ, il y a un capitaine qui soit désigné, que ce soit lui qui lève le trophée. Dans le foot, moi, je l'ai déjà vu. Dans d'autres sports, je l'ai déjà vu. Et je trouve ça que c'est un geste super fort. Hein. Mais je trouve ça presque logique, en fait.
Je suis d'accord.
Quand tu as eu un capitaine toute une saison, bon,
je suis d'accord avec pas tout le monde l'aurait fait.
Voilà, non, ça c'est sûr. C'est ça, on est tout à fait d'accord.
C'est que c'est un geste fort. Ça paraît logique. J'y ai pensé aussi. C'est normal, mais il faut quand même avoir envie de le faire. Il faut vouloir le faire.
Surtout, je pense, dans l'euphorie du moment.
C'est sacré, quoi.
Voilà, on se dit, allez, on va chercher le bouclier, lui, c'est. Il a dit, c'est lui le
Il y avait peut-être réfléchi avant.
J'espère, mais même je pense, c'est sûr.
Merci messieurs, et nous on va se retrouver pour parler de la saison générale du top 14 qui bien évidemment a vu le Stade Toulousain s'imposer samedi soir au Stade de France face à Clermont 24-18. À tout de suite sur Radio Présence. Hey now, what you gonna do about me? I never was a fan of your ways, but I'm still here playing your games. So tag me in. Switchblade coming for your flesh and your bones. Inside, in between. I'm playing contract, never not alone. No time left for me. Land and space, all the words, freedom over, but your page is drowning in. Inside out, keep it brief, keep it sober. Can you keep it out of sight from me? When you're cutting it close, but nothing has changed. Fighting with most and placing the blame. Hey now, what you gonna do about me? I never was a fan of your ways, but I'm still here playing your game. So tag me in. Hey now, what you gonna do about me? I never was a fan of your ways, but I'm still here playing your game. So tag me in. Instant karma shifting shapes in the shadows. Staying inside the line. Lost all trace of the life that you borrowed. Lost all sense of time. A cheap tricks, just kicks, just to keep it steady. Severed at the roots. Silence rules when your heart's feeling heavy. Silence tells the truth. When you're cutting it close, but nothing has changed. Fighting with most and placing the blame. Hey now, what you gonna do about me? I never was a fan of your ways, but I'm still here playing your game. So tag me in. Hey now, what you gonna do about me? I never was a fan of your ways, but I'm still here playing your game. So tag me in. About me, I never was a fan of your ways, but I'm still here playing your games, so tag me in. C'était Barry Moore sur Radio Présence.
Sportez-vous bien. Le débat.
Sur mon accent anglais, je peux quand même avoir les félicitations du jury. Là,
vous n'avez pas dit Barry Moore, Moore là, pour le coup. Vous n'êtes pas trompé. Ouais.
Je l'ai écrit quand même. Je l'ai écrit en phonétique pour ne pas me tromper.
Ah oui, quand même. Ouais.
Faire bosser cet été.
Mon anglais légendaire.
Ouais.
On repart sur le rugby, messieurs. Vainqueur du top 14 samedi, le Stade Toulousain a clôturé une saison magnifique, pleine de rebondissements. Messieurs, pour lancer ce deuxième débat de la soirée, question évidemment très simple. Est-ce que Toulouse est le plus beau champion de France de ces 10-15 dernières années? Timothée Rouvière.
Oui.
Oui. Maxime Brossard.
Je réfléchis, 10-15 dernières années quand même.
Faut remonter à,
ça remonte à quelle année,
2005 2004, 2005.
Peut-être
hein.
Toulon, non?
Attendez, il y a Biarritz à la belle époque, c'est, ça jouait aussi.
Mehdi Guiono.
Mais ça dépend si on parle en termes de jeu,
allez,
oui.
Ça dépend, oui.
Si on parle en termes de jeu, oui. Si on parle en termes de beauté de titre, j'ai envie de dire, il y a aussi bien quoi.
Le palmarès, c'est vrai que ça, on remonte à peu près en 2004-2005.
Il y avait Stade français.
Il y avait Biarritz, ouais. Stade français.
Biarritz, c'était costaud.
Biarritz, quand même, c'était magnifique.
Toulon aussi.
Toulon en 2014.
Ouais. Ouais.
Messieurs, alors.
Ouais. Allez, avec Biarritz, on va dire oui.
Avec Biarritz, on va dire oui.
La finale de 2006, moi je m'en souviens, j'étais à Biarritz. Regardez la finale face au Stade Toulousain, un écran géant.
C'est belle, ouais.
J'étais absolument pour ni l'un ni l'autre, mais c'était assez une démonstration de force assez impressionnante.
C'était bon Biarritz à cette époque-là. Ouais. Ouais.
Le Stade Toulousain c'est quand même l'un des plus beaux champions de ces allées là par contre de ces 2-3-4 dernières années. On est d'accord.
Ah oui, c'est sûr, parce que Castres, messieurs, vous me contredirez, pour moi Castres
sixième,
était sixième,
c'est pas la même chose.
Une grosse surprise.
Ouais, mais c'est beau aussi.
C'est beau aussi. Le Racing, Clermont, le Stade Français. Là, en fait, on a vraiment un retour d'un beau jeu avec des dédoublements, avec des décalages, avec des joueurs qui sont puissants, qui vont vite et avec surtout du spectacle pour les yeux. Et ça fait quand même plusieurs années qu'on n'a pas eu ça à part Biarritz, mais c'était il y a 10-15 ans.
Le fameux jeu d'évitement.
Ouais, voilà, c'est ça. C'est surtout, on va dire, c'est la beauté en termes de jeu. Mais comme a dit Mehdi, le titre de Castres était aussi beau puisque ça a été un peu inattendu. C'était un peu, voilà, le comme ils aiment à se dire, le village gaulois qui a défié les grandes villes et qui a finalement réussi à gagner le bouclier. Donc il y avait aussi, dramatiquement, c'était aussi
la
assez...
La première de Clermont aussi.
La première de Clermont, voilà, non, il y a quand même eu des titres en termes, on va dire, de beauté globale qui valent celui de cette année.
D'émotion pour le club.
Voilà, voilà. Mais après, c'est sûr que sur l'ensemble de la saison et en termes de qualité, on va dire, intrinsèque, là, je pense que là, le stade est très loin devant.
Il n'y a pas photo. Même s'ils ont loupé leur finale, on en a parlé tout à l'heure de Clermont, c'est vrai que Clermont aussi réalise une énorme saison. Champion d'Europe. Challenge européen,
oui.
Et finaliste du top 14, la saison est gigantesque.
Il ne faut pas oublier voilà, qu'ils sont, comme vous le disiez, qu'ils sont champions de Challenge Cup, donc c'est la deuxième Coupe d'Europe.
L'équivalent de la Ligue Europa.
Mais voilà, aucune défaite pendant cette compétition. Ils gagnent contre La Rochelle. Ils ont été dans les 3-4 premiers pendant toute la saison. Il ne faut pas oublier que Clermont, l'année dernière, ça avait été très compliqué. Ils n'étaient pas qualifiés pour les phases finales. Ils ont dû tout reconstruire, etc. Ouais. Donc chapeau à Clermont. Mais après, voilà. Toulouse était largement au-dessus cette année, c'était compliqué, ils finissent avec 15 points d'avance.
Mehdi Guillonneau, Clermont, on a retrouvé le grand stade toulousain, on est en train petit à petit de retrouver le grand Clermont.
Après, le creux de Clermont a quand même été beaucoup plus court.
Stade,
il y a eu surtout une année, parce que la régularité de Clermont sur ces 10-12 dernières années, je trouve ça exceptionnel.
Le dernier titre de Clermont, c'est en 2017. Voilà,
même au-delà de titre, c'est-à-dire que le rugby, il y a cette spécificité des phases finales, mais en saison régulière, ils sont pratiquement toujours dans les deux premiers. Quoi.
Oui,
c'est exceptionnel sur la durée. Moi, ce qu'ils font, à chaque fois, je suis impressionné.
Maxime Brossard.
C'est tant exceptionnel sur le terrain qu'en dehors, j'ai envie de dire, puisque il y a beaucoup d'équipes qui avec autant, on va dire, malheureusement, de déconvenues dans des finales où les supporters auraient abdiqué. Je suis même pas sûr que les supporters de Toulouse auraient la même ferveur que ceux de Clermont s'il y avait eu le même parcours du côté toulousain. On en a parlé un peu en off, mais c'est vrai que Toulouse, les gens supportent quand ça gagne, quoi. Tandis que Clermont, que ça gagne ou que ça perde, les gens sont toujours là, ils sont tous derrière.
Il y a une base qui est plus grosse,
Comment ?
Ils sont peut-être un petit peu habitués à perdre.
Ouais, mais justement,
vous
rigolez,
gens, mais je pense que ça joue.
C'est ça qui est fou.
Ça joue, ils sont resserrés derrière tout ça, un peu contre tout le reste.
C'est ça, exactement.
Et c'est ça qui fait un petit peu la force de ces supporters-là.
Ouais, c'est clair.
Et si Toulouse et Clermont ont dominé de bout en bout la saison de top 14, il y a une confirmation juste derrière. C'est vrai que c'était un petit peu l'équipe surprise en demi-finale l'année dernière. Ils ont confirmé cette année, ils ont encore fait une demi-finale. Là, ils étaient presque attendus finalement en demi-finale. C'était le Loup, c'est Lyon. Là, on est en train de. Là, il y a un club qui est en train de grandir, une équipe qui est en train de se monter. C'est plaisant à voir.
Ouais, surtout que si on regarde le recrutement pour l'année à venir, c'est très solide. Alors, je ne l'ai
c'est
pas
hyper
sous
intéressant.
Les yeux, mais c'est ça. C'est-à-dire que Pierre Mignoni, c'est vraiment quelqu'un qui construit une équipe, c'est-à-dire il va pas chercher forcément à avoir des grands noms ou des noms clinquants, il va plutôt chercher des joueurs un peu intermédiaires qui va amener vers le haut niveau, ou alors il va récupérer peut-être des joueurs qu'on pensait un peu en désuétude, je pense à Wisniewski, je pense à voilà, et il va les ramener sur le devant de la scène. Et Lyon, c'est vraiment le club qui monte, à mon avis. On va en entendre parler dans les années à venir.
Il y a Timothée Rouvière, vous partagez cet avis hein.
Oui, tout à fait. Lyon, c'est vrai que c'est pas forcément une terre de rugby à la base. Et comme le dit Maxime, Mignoni récupère des joueurs un peu à droite à gauche. Je pense à Liam Gill qui était indésirable à Toulon. Je pense à Dylan Hermitage. Je pense à son frère Stéphane. Je pense à Wisniewski.
Après, ils ont Couillou à la mêlée qui est exceptionnel.
Voilà, et surtout, ils ont un pack devant qui est très très fort. Derrière, ils ont pas des joueurs exceptionnels qui vont être sélectionnés en équipe de France à chaque rassemblement.
Non,
mais ça tient la route, c'est et c'est un état d'esprit irréprochable. Et oui, ça peut être le beau club des années à venir, ça c'est sûr.
Surtout que la progression, pour moi, elle est linéaire. Quoi.
C'est exactement
début,
ça.
Petit à petit,
depuis qu'ils
se sont construits,
ça fait que...
Voilà, il y a très rarement eu des hauts, des bas. Quoi. C'est tout à fait régulier, c'est impressionnant aussi.
Ouais, non, c'est vraiment ça, c'est assez linéaire. Après, je pense que j'allais citer aussi, par exemple, La Rochelle, qui est un peu dans la même continuité, même si là, ils ont fait leur deuxième demi-finale de leur histoire.
On va parler de La Rochelle juste après.
Oui, voilà, mais ils
on
ont...
On peut même maintenant.
Oui, maintenant, allez, c'est parti.
C'est
allez,
parti.
On se fait plaisir. avec Xavier Garbajosa qui va partir à Montpellier l'année prochaine. Mais...
Cinquième La Rochelle, demi-finale perdue face au Stade Toulousain. Une victoire contre le Racing 4. quatrième pourtant. Oui. C'était en plus à Yves du Manoir à Colombes. La Rochelle finaliste de du Challenge européen. Là, pareil, c'est une très belle saison de la part de La Rochelle.
Oui, oui, de toute façon, c'est vraiment... on sent que c'est pareil, c'est un peu comme Lyon. Je pense que c'est l'équipe qui monte en puissance. C'est l'équipe qui dégage aussi des joueurs... avec un bon mélange entre anciens et jeunes. Ça me fait penser un peu au Stade Toulousain quelque part dans la structure, avec peut-être des niveaux un peu inférieurs, mais quand on voit des Rates, des Retières, quand on voit Victor Vito, ce qu'il a apporté au club, Gourdon, là il y a eu Aldrit récemment.
Vous en parlez, vous faites bien d'en parler. Kadjersoy dans l'équipe de La Rochelle, ouais. Quand même, je suis désolé, mais ça ne peut que réussir.
Et qu'est-ce qu'il y a d'autre?
Bourgarit, Aldrit, Aiguillon et André.
Ah oui, il y a Guillon
et André aussi.
Marc-André. Ouais.
Timothée Rouvière, on va compter sur La Rochelle. Hein.
Bah oui, moi je suis d'accord. Ce que dit Maxime, pour moi c'est le mini stade toulousain, c'est le club qui monte et on va entendre parler. Alors ça a été juste cette année pour qu'ils rentrent dans les 6, mais après voilà, c'est pas un club qui dispose d'un énorme budget comme Lyon. Ouais. Ils finissent devant un club comme Montpellier ou comme le Stade Français, surtout comme Toulon à la fin de la saison régulière, ce qui est un peu inattendu au niveau budget. Il y a un mélange, un excellent mélange entre des joueurs qui viennent de gros clubs, entre des jeunes, entre des étrangers.
Puis ils ont l'avantage d'avoir, bon là il y a Garbajosa qui va partir à Montpellier, mais ils ont quand même un staff costaud avec Grégory Patat, je crois, un autre Gersois aussi.
Exactement, c'est lui qui les fait venir.
Ouais, et il y a et surtout Jono Gibbs qui est à la tête de tout ça, qui est le néo-zélandais qui était avant à l'Ulster, qui a fait de belles choses. Non, vraiment avec le président Vincent Merlin qui fait un travail incroyable aussi. C'est ouais, comme Lyon, je pense que c'est les clubs qui vont compter dans le futur.
Il y a un mot sur les clubs maintenant qu'ont vraiment raté leur saison. N'en déplaise à notre réalisatrice Coraline, c'est vrai que Pau s'est maintenu, Pau est dans les clous. Voilà, on est d'accord, Coraline.
Pau fait une non-saison, je trouve.
Oh, c'est affreux.
C'est vrai, c'est vrai, la première. Vous, supportrice de Pau, vous avez dû vous ennuyer quand même durant toute la saison de top 14.
Ennui, oui et non, parce que bon, même quand on allait au stade du Hameau, les autres gagnaient, donc bon, on voyait quand même des essais, mais bon, il y avait des essais, mais bon, ils n'étaient pas de notre côté.
Il y avait un concours entre les matchs au Hameau et les matchs au stadium du TFC, c'était un peu la même chose.
Maxime Brossard.
Ouais, le stade du Hameau et le stadium avec le TFC, c'est terre d'accueil. Ouais, pour... Non, mais c'est vrai que moi, c'est vraiment, on va dire Toulon, oui, forcément. Mais Pau, pour moi, c'est vraiment la plus grosse déception. Quoi. Je veux dire, quand on voit le 15 de départ, c'est...
Est-ce que le Racing 92 n'est pas la plus grosse déception? Ils voulaient aller très loin en Coupe d'Europe, ils se font sortir en quart de finale. Ils voulaient aller très loin en top 14, ils se font sortir en barrage, donc en quart de finale. Est-ce que la plus grosse déception du Racing par rapport aux moyens, par rapport à l'investissement, par rapport... Est-ce que ça peut être la plus grosse déception de la Timothée Rouvière?
Pour moi, c'est la plus grosse déception parce que au vu des...
Ils n'ont rien fait.
Quand on regarde chaque poste au Racing, pour moi, c'est au moins un des 3 ou un des 5 meilleurs joueurs européens. Je pense que c'est au niveau mental que ça bloque au niveau du Racing. Ils ont construit une pelouse synthétique pour que la pelouse s'adapte aux qualités des joueurs du Racing des lignes arrières. Ils ont des joueurs mais fulgurants à tous les étages et ça passe pas. Ils perdent contre La Rochelle, moi j'ai pas l'impression qu'ils aient vraiment joué. Pour moi c'est mental au niveau du Racing, et tant qu'ils arriveront pas à corriger ça, et surtout avec le départ de Laurent Labitte, là ça va être compliqué.
Je pense que c'est ça aussi qui a pesé dans ce match, et qu'ils savaient que
l'entraîneur partait.
On allait sur une nouvelle ère, quoi. Mais oui, pour revenir à Pau, ouais. Pour moi c'est vraiment la grosse déception, dans le sens où j'avais beaucoup d'attentes envers cette équipe en début de saison, parce qu'il y avait des beaux noms sur quand on regardait le 15 de départ, et surtout les sous que mettent Total, et notamment aussi ils ont fait un super centre d'entraînement et tout. Pour moi c'était vraiment
c'est vrai, les investissements étaient très importants.
Je les imaginais pas en dehors entre la 3 et la 6ème place, quoi. Et ça m'a vraiment déçu.
Il termine 11ème. Mais dis Guillaume.
Moi, une autre équipe qui m'a beaucoup déçu, et je suis étonné que vous en parliez pas.
Toulon.
Parce qu'ils se retrouvent. Et non, c'est Bordeaux.
Bordeaux,
à cause du. Enfin, ils ont fait un gros recrutement l'année dernière, il y a 2 ans. Ouais. Et ils vont se retrouver en difficulté peut-être à cause de ce recrutement. Et ils finissent 10ème cette année. Ouais. Pour moi, c'est peut-être le club qui s'est mis le plus en difficulté. Le Racing, d'accord, c'est décevant. Mais bon, Pau aussi. Mais voilà, Bordeaux, ils se mettent en difficulté avec cette saison-là.
Revenons sur Pau juste avant de partir sur Bordeaux et les autres clubs. Coraline, vous êtes d'accord avec ce qu'a dit Maxime Brossard, j'imagine?
Ah oui, effectivement. Pau, c'est une non-saison. L'année dernière, on était à la limite en fait, de se qualifier à la 6ème place, donc, que Castres a obtenu et qui après devient champion de France. Là, cette année, 11ème. Non, sachant qu'après, il y a Perpignan, Grenoble, voilà, derrière, donc c'est même pas...
Oui, derrière, il n'y a personne, quoi.
Voilà, derrière, il n'y a personne, donc pour moi, c'est presque comme si on était dernier du top 14. C'est... Ouais, non, c'est...
Avant-dernier, il y a Agen, quand même.
Ouais. Mais non, c'est une non-saison. Et puis après, pour revenir sur l'UBB, je trouve que c'est une équipe du milieu de tableau. C'est pas en haut, c'est pas en bas, c'est au milieu.
C'est vrai que l'UBB, on parle de Clermont maudit en finale. J'ai l'impression que moi, l'UBB, Bordeaux,
c'est pour les phases finales.
C'est maudit pour les phases finales. Ils n'y arrivent pas. Ils, jamais, à chaque fois, une, deux journées de la fin, ils se disent on gagne, on est en phase finale. Ils n'y arrivent jamais.
Il y a un blocage peut-être psychologique du côté de l'UBB aussi.
C'est certain.
Après, je pense que, comme tu l'as dit, il y a un petit problème de gestion qui va se poser. Ils ont fait un recrutement 4 étoiles. Et d'ailleurs, je ne comprends pas, c'est que le recrutement continue. Ils ont pris Lamera, Cordero, le fameux ailier argentin, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et Flancard qui joue au Stade Français, je sais pas comment ils vont les payer. En plus, il a fait un appel, on va dire, aux dons, presque Laurent Marty. Je sais pas ce qui.
Ah, de nouveaux investisseurs. Ouais.
Ouais, c'est compliqué pour l'UBB. Je vois pas. Enfin, très très étrange.
C'est qui tout double pour l'UBB l'année prochaine? C'est phase finale, c'est... presque c'est une obligation, pardon, d'avoir la phase finale l'année prochaine. Un peu comme Lyon au football, il faut qu'ils aient la Ligue des Champions économiquement. Est-ce que là, on est un peu dans le même style?
Alors oui, c'est la même chose. Mais moi, je pense pas que c'est qu'un problème mental. Je pense que c'est un problème de gestion de club parce que vous dites, voilà, ils craquent en phase finale, ils sont quand même à 12 points, même 13 points de la 6ème place et 12 points du Castres Olympique qui finit 7ème. Et surtout, alors je pense que ça va mettre un petit peu dans la maison Christophe Furios qui arrive de Castres. Voilà. Donc là, je pense que c'est la meilleure chose qui puisse leur arriver. Il va secouer un petit peu tout le monde. Et voilà, et pour revenir sur la déception, pour moi aussi Toulon avec une constellation de stars. Mais là, voilà, Mourad Boudjelal qui change un petit peu de stratégie, qui fait plus confiance à des jeunes joueurs français. Je pense à Aymeric Setiano ou à Louis Carbonel.
Ça sera dans le temps, Toulon.
Oui, ça sera dans le temps. 2-3
ans,
sûr.
Il faut attendre
ça,
le nouveau cycle.
Ouais, comme on dit, c'est comme en foot, vous le savez bien, les grandes équipes ne meurent jamais. Toulon, ils vont revenir et puis ça va repartir de plus belle. Il n'y a pas à s'en faire, c'est juste qu'ils sont dans une période de transition. Et bon, voilà, faut souhaiter d'ailleurs qu'ils reviennent. Toulon, un championnat sans Toulon, c'est pas un championnat quand même.
Pour conclure, il nous reste à peu près une minute. On va parler quand même du vraiment bas du classement. On le rappelle, Bayonne et Brive sont promus en top 14. On est d'accord pour dire que Grenoble et Perpignan n'ont jamais été au niveau de la saison.
Oui, surtout Perpignan, je crois qu'ils ont mis je sais pas combien de matchs pour décrocher leur première victoire. Grenoble, c'est Grenoble,
qui a fini 6e.
Oui, voilà, mais Grenoble, ça flirte avec la 12e, 13e place depuis 4-5 saisons. Donc pour moi, c'est pas des. Alors surtout pour Perpignan qui venait de remonter, mais Grenoble, pour moi, c'est pas une terre de rugby et c'est pas un club qui a l'effectif suffisant.
Depuis un moment.
Terre de rugby, ils sont.
Mais en termes de culture rugby, c'est sûr qu'ils sont bien remplacés. Si on parle de Bayonne et Brive.
C'est ça, il faut finir sur ça, Jean.
Coraline, elle veut terminer.
Non, ça fait mal pour Perpignan quand on pense qu'il y a 10 ans, ils remportaient le titre de champion de France,
c'est
justement.
Vrai. C'est vrai.
Mais on va se consoler avec Bayonne, comme on disait avec Mehdi, c'est énorme. Quoi. Ça, c'est vraiment. Là, c'est génial. C'est bon pour notre sport.
On ira voir le Stade Toulousain-Bayonne quand même.
Ah, ça, oui. C'est sûr.
On fera ça ensemble. Merci, messieurs, merci à vous. Merci à Coraline et Grégoire à la réalisation pour cette émission spéciale Stade Toulousain. On le rappelle qu'il y a vu le sacre du Stade Toulousain samedi soir au Stade de France contre Clermont 24-18. Vous pouvez retrouver demain dès 7h Rémi Souloumiac, Isabelle Onaille et Corinne Saint-Félix. À 9h, Vivante Église avec Emmanuel Pella. Bonne semaine avec Radio Présence. À lundi.
Vous aimez les émissions de Radio Présence? Vivante Église. Parole d'auteur, immersion, la conférence de la semaine, des clés pour vivre, auteur, immersion, la conférence de la semaine, des clés pour vivre, auteur.